Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Alors, je m'appelle Anna Chédine, Nash. Mon nom de scène, c'est Nash. Voilà, j'ai 35 ans maintenant. Je suis musicienne, autrice, compositrice, interprète, mais je suis aussi... multicasquette, parce que je réalise mes albums, je fais des arrangements, j'écris les clips, je réalise aussi les clips parfois. Donc en même temps, je fais un peu des, enfin, je suis community manager sur mes réseaux. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait maintenant être chanteuse maintenant c'est un million de métiers. Et c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est-à-dire que je suis c'est juste écrire des chansons et chanter, j'adore, mais si je peux en plus penser au clip, la scène, la scéno, c'est ça que j'aime, c'est la pluralité de ce métier en fait. Ma mère est parisienne normande, enfin vraiment, elle est normande, je crois, de son père, mais elle est parisienne, c'est-à-dire que depuis des générations, ils habitent à Paris, donc c'est vraiment une franchouillarde parisienne. Et mon père est libanais, mais aussi un peu, enfin, on dit égyptien parce qu'en fait, il est né en Égypte. Mais ils sont vraiment d'origine libanaise, mais ils ont fui le Liban pour aller s'installer en Égypte. Donc mon père est né en Égypte et il est venu à 8 ans en France. Mais il est né à Ismaïlia en Égypte. Et donc voilà. Et je pense, j'imagine avoir plein d'autres origines que je connais pas. Je n'ai pas fait le test à l'hiver là, le test ADN. Et je suis sûre qu'il va y avoir d'autres trucs. Déjà, notre nom de famille, Chédide, c'est pas très français. Donc, on a toujours voulu savoir ce que ça voulait dire. Et Chédide, ça veut dire fort, homme fort, ça veut dire costaud. Et on nous a toujours dit, quand on était malade, quand on était petit, mais t'inquiète, de toute façon, on est costaud, nous, on est les Chédides, on est Chédide. Et donc, en fait, il y a toujours eu ce truc-là. Donc, il y a toujours eu cette histoire-là, en fait, que je connaissais pas vraiment, mais je savais que je venais de là. Mais je savais pas comment, pourquoi et qu'est-ce que j'avais en moi qui venait de là, tu vois, qu'est-ce qui résonnait avec ça directement. Mais par contre, je savais que ça existait, mais c'était complètement abstrait. Et c'est plutôt en grandissant que je me suis rendu compte de notre manière d'être, tu vois. Quand je vais au Maroc, au Liban, en Égypte, je vois les gens, comment ils se touchent, comment ils leur sourire, leur chaleur. Dans ma famille, on est très comme ça. On nous appelle un peu les bisounours, mais on aime prendre dans les bras, on sourit, et c'est honnête, quoi. Enfin, et on est dans une chaleur orientale aussi, une chaleur méditerranéenne. Et ça, je me suis rendu compte quand j'étais jeune que je me prenais des claques sociales, je me prenais des F toute la journée. Et quand je suis allée dans des pays plus méditerranéens, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, je viens de là, en fait. Déjà, il y a eu ce truc de reconnaissance quand j'ai posé les pieds au Liban pour la première fois. Je ne sais même pas pourquoi. En plus, j'étais plutôt jeune, hein, mais j'ai eu envie de pleurer d'émotion. J'ai l'impression de retourner chez moi alors que je n'étais jamais allée. Et j'avais l'impression de croiser mon frère Joseph partout dans la rue. Je trouve qu'ils ressemblaient tous à Joseph. Ils avaient tous le nez comme ça. Libanais, j'ai dit, Jojo, mais regarde, il y a tes sosies partout. C'était dingue. J'arrivais dans un monde parallèle où mon frère devenait le rôle. Enfin, c'était complètement fou. Quand j'entends un Libanais parler dans la rue, tout de suite, j'ai ce truc. Quand j'entends même des Libanais parler, c'est vraiment spécial. C'est pas exactement pareil que les Égyptiens, que c'est pas les mêmes trucs. Et ben, je reconnais direct les Libanais déjà, ça c'est sûr. Et puis surtout, ça me fait l'impression, tu sais, c'est une Madeleine de Proust, quoi. Et donc il y avait ça. Il y avait ce truc de reconnaissance. J'avais l'impression de me sentir. Et même quand je vais au Maroc et tout ça, il y a un truc où je me sens reconnue quelque part. Je me sens reconnue pour dans mes gènes, quoi, tu vois, viscéralement. Ici, j'ai l'impression que je dois un peu plus porter un costume, tu vois. Oui. Mais en même temps, est-ce que si j'habitais là-bas, j'aurais peut-être porté un autre costume aussi. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'il y a un endroit, enfin, tu vois, je sais pas s'il y a un endroit où je crois qu'en fait, le fait de vivre et d'être de faire l'expérience terrestre, quoi, c'est d'une certaine manière jouer dans une pièce de théâtre, hein, quand même. Donc, de toute façon, il y a toujours ce truc-là. Mais il y a des endroits où tu te sens bien, où ton corps se sent bien, tu as l'impression que c'est la bonne température, c'est le bon tempo. Et moi, c'est vrai que quand je vais dans ces pays-là, il y a un truc de tempo, de douceur de vivre, de température qui, ouais, où mon corps, il est là, putain, c'est cool, là, ici, là.
Ta grand-mère, c'est André Chédid, qui est une grande poétesse qui a beaucoup écrit sur justement l'exil et bien d'autres choses. Quel rapport tu avais avec elle ? Est-ce qu'elle t'a inspirée ? Est-ce qu'elle t'a conseillée ?
Oui, alors ma grand-mère, bah oui, bien sûr, énorme source d'inspiration. Déjà, quand j'étais petite, de voir cette femme. Écrire et avoir en plus une vraie reconnaissance dans son métier par ses pairs voilà, à son époque, dans les années, je sais pas, 30, être une femme orientale en France qui écrit et qui arrive à faire résonner sa voix, franchement, c'est presque mission impossible, hein. Donc, et elle avait réussi à le faire avec énormément de brio et de talent et de classe et de grâce. Donc moi, je la regardais comme ça. Moi, c'était moi, Madonna, tu me mettais Whitney Houston ou je sais pas qui, ça me faisait ni chaud ni froid. Quand je voyais ma grand-mère, j'étais là, parce qu'elle m'impressionnait vachement. Ouais. Et elle m'a offert, ça c'est une histoire que je raconte tout le temps, mais ça m'a beaucoup marqué. Quand j'avais 8 ans, moi j'étais hyper assez timide, assez dans beaucoup de questionnements et tout ça. Et elle m'a offert un cahier et un stylo plume, juste ça, en me disant rien, juste à un Noël ou je sais plus quoi, elle m'offre ça. Et ça, je l'ai pris et j'ai fait ok. Je sais qu'elle veut me dire que si j'ai des trucs à dire, eh ben, faut que je les exprime. Je l'ai pris vraiment comme ça et j'ai eu cette conscience-là à 8 ans. Je fais ok. Et donc j'ai commencé à écrire des poèmes. Et puis ça a été la porte ouverte de ok, moi aussi, je vais m'exprimer. Parce que c'est elle qui m'a dit ça, c'est une clé. Ce sera une clé dans ta vie, t'en fais ce que tu veux, mais ça peut être une clé. Je trouvais qu'elle avait un truc d'une intensité, d'une profondeur. Elle parlait pas beaucoup. Elle écrivait, quoi. Elle parlait pas trop. Elle observait, elle écrivait. Elle était assez spéciale. C'était pas une grand-mère affectueuse. Pas du tout. Elle était assez froide. Donc moi, j'ai pas eu ce côté. Du côté de ma mère, on a une grand-mère très câlin. Mais du côté de mon père, c'était beaucoup plus... voilà, une espèce d'emblème, quoi. Tu vois, qui trône au... Puis tu la regardes comme ça et elle fait un peu peur. En même temps, elle t'inspire vachement. Et en fait, je l'ai découverte après, parce qu'au début, je lisais ses poèmes quand j'avais 8 ans. Mais bon, et là, aujourd'hui, maintenant, je lis du André Chédid. Je me dis, putain, ma grand-mère, c'était cette personne-là, en fait. Et là, je me rends compte de la puissance de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle était, son âme. Parce que pour écrire un truc comme ça, il faut avoir une puissance d'âme, mais il faut être carrément, pour moi, c'est normal, en fait. Je comprends mieux pourquoi elle n'était pas sur Terre, parce qu'elle était, pour moi, elle était connectée à des trucs très, 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 très puissants. Mais presque comme si elle avait une mission. Ouais. Elle devait venir délivrer ça et elle a changé la vie et la vision de beaucoup de gens, je pense. Mm-hmm. Elle a ouvert le cœur de beaucoup de gens avec ses écrits aussi. Mm-hmm. Donc elle avait une mission. Donc bon, bah voilà, elle était peut-être un peu moins dispo. Ma grand-mère, son rêve, c'était de venir en France et d'être écrivaine en France, quoi. Et donc, en fait, c'est tellement son rêve qu'en fait, c'était le Graal. Elle avait toujours eu envie de ça. Elle avait réussi à le faire. Elle avait élevé ses enfants qui étaient français, qui étaient dans des bonnes écoles en France. Enfin. Et donc, en fait, pour elle, elle avait son Eldorado. Donc, en fait, mais par contre, elle en parlait beaucoup dans ses bouquins. Et puis évidemment, il y avait... mon grand-père, il me racontait toujours des histoires incroyables dans le désert à chameau, enfin des trucs complètement clichés, mais qui étaient vrais, quoi. Mmh. Ils allaient faire des après-midi en chameau dans le désert. Bon, c'est sûr que c'est pas pareil que d'aller place Clichy, quoi. Mais, il y avait, mais c'était romanesque. C'était pour moi, c'était presque plus comme un film, quoi, comme un truc qu'on me raconte, comme une histoire d'enfant. Mais c'était pas très réel, en fait, quoi. Ça l'a été quand j'y suis allée, où là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est réel. Là, mon dernier album, je suis allée au Maroc, je suis allée dans les Cévennes, je suis allée dans la Drôme, dans la nature. Quand je suis allée au Maroc, j'ai justement aussi, je me suis connectée à ce rapport au corps qui est différent, à ce rapport à l'être qui est différent, à la vie, à la mort, aux relations, à demain, à tout de suite. Enfin bon, bref, je me suis connectée aussi à ça et ça m'a enrichie et je voulais aller vers ça parce que j'avais besoin d'être inspirée aussi par ça. Enfin, c'est ça qui m'inspirait en tout cas. Et donc moi, c'est évidemment, ça pourrait être une expérience de rester chez moi enfermée pour composer mon album, mais je composerai pas le même album. Et je sais que j'ai toujours eu besoin d'ailleurs, j'ai toujours eu besoin d'une porte ouverte vers l'inconnu ou vers un truc qui me sort de mon quotidien pour être inspirée. Dans ma famille, ils sont tous catastrophés, mais parfois ils flippent, ils me voient partir. Je fais des trucs extrêmes, hein. Je pars toute seule pendant 2 mois dans les Cévennes, par exemple, dans un tout petit hameau, presque sans réseau, où je suis toute seule avec mon piano et je reste et je fais de la rando et je parle à personne pendant 2 mois. Ou alors je pars au Maroc toute seule, pareil, j'étais dans la campagne à Essaouira, j'étais toute seule, pareil, pendant plusieurs mois. Et j'adore ça, j'adore l'aventure, j'adore ne pas savoir ce qui va se passer, j'adore avoir peur. Enfin, sans extrême, tu vois, mais ça me fait pas peur d'avoir peur. Et d'ailleurs, quand je suis toute seule dans mes montagnes, dans mes machins, moi j'ai des copines qui sont là, mais comment tu fais pour rester toute seule? Moi, une nuit, je pourrais pas, tu vois. Et en fait, j'ai pas peur, j'ai une confiance. En fait, j'ai vraiment confiance en mon instinct. Et quand mon instinct me dit, va là, c'est là que tu dois aller, je sais que ça va aller, tu vois. Et même s'il y a des soucis, parce qu'au Maroc, j'ai failli me faire bouffer par un chien qui avait la rage, donc potentiellement, ça peut être dangereux. Et ben tu te connectes, mais justement tu te connectes à tes ancêtres, tu te connectes à la terre, tu te connectes à ta foi. T'es obligé, hein. Et de toute façon, tu sais, tu peux crever en traversant la rue, en allant acheter ton pain. Donc de toute façon, je pense qu'il faut avoir confiance, parce que on sait pas quand ça on va partir, on sait pas ce que la vie nous réserve, mais par contre notre instinct, c'est un guide merveilleux, quoi. Bah, quand je suis allée au Maroc la dernière fois, je me suis vraiment dit, j'aimerais bien quand même y retourner un peu plus. Je sais pas ce que la vie me réserve, mais il est possible totalement qu'en fait je me dise, mais attends, là, je sais pas, je vais dans un voyage et puis j'ai un endroit que je trouve sublime. Je me dis, parfois tu sais, tu vas dans des endroits et on te dit, c'est là que tu dois rester là. Enfin, tu vois, ça me l'a fait avec la Drôme. Quand je suis allée pas mal marcher dans la Drôme, bah, il y avait un truc de meuf, là, il y a un truc, c'est pour toi ici, quoi. Je le sais, tu vois. Et j'ai l'impression que pour se sentir en vie et pour évoluer, il faut aussi prendre des risques, il faut aussi se mettre en danger un tout petit peu pour sentir qu'on est vivant et pour sentir qu'on évolue et qu'on avance. Rester dans sa zone de confort tout le temps, eh ben, ça annihile beaucoup de choses et parfois ça... Bah, la vie, elle est un peu, voilà, c'est électro, tu vois, encéphalogramme plat, là, et puis c'est sympa, c'est un peu tiédasse, mais moi, je vis pas comme ça, quoi. Moi, j'aime pas vivre comme ça, j'aime sentir que je suis en vie, en fait. J'aime sentir que je suis en vie, et pour ça, c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. Je pense qu'on est aussi dans la recherche tout le temps, la recherche, on veut se renouveler, on veut trouver une nouvelle idée, une nouvelle sensation, on veut aller plus loin, on veut approfondir, on veut, tu vois. C'est parce qu'on a envie, de se pousser. Sinon, on ferait le même album tout le temps et puis on serait chier et puis tout, on serait chier. En fait, ce qui est assez étrange dans ma fratrie, c'est qu'il y a Émilie et Mathieu qui ont, qui ont plutôt 50 ans, mmh. et Joseph et moi, 35. Donc, en fait, il y a deux générations, alors qu'on a les mêmes parents. Mais il y a deux générations. Donc, eux, en fait, ils ont connu nos grands-parents beaucoup plus que nous. 15 ans de plus que nous. C'est énorme, 15 ans. Donc, en fait, eux, ils n'ont pas du tout la même histoire. Et ils n'ont pas du tout... Mathieu, par exemple, il a eu une relation beaucoup plus profonde avec ma grand-mère. André, elle lui a écrit des textes de chansons et tout ça parce qu'il a eu 15 ans de plus que nous. Moi, ma grand-mère, je l'ai connue quelques années et puis elle est partie assez vite. Et puis elle a eu une maladie, Alzheimer. Donc, enfin, on a perdu vite, on va dire. Donc, on n'a pas du tout le même rapport puisqu'on n'a pas la même temporalité. Et on n'a pas connu nos parents aux mêmes époques de leur vie aussi. Donc, en fait, non, on n'a pas du tout la même histoire et je pense qu'on a tous une approche et une vision de nos origines qui est différente. Moi, je suis en train de finir mon nouvel album qui parle justement que j'ai composé au Maroc, dans les Cévennes, dans la Drôme, beaucoup dans un truc de solitude et de après toute cette période un peu de bouleversant que tout le monde a connu, de reconnexion profonde. J'ai l'impression qu'aussi de partir à l'aventure et d'être seule, c'est une manière vraiment de se reconnecter profondément avec notre essence pure. Et parfois, on est parasité par tout ce qui nous entoure et par nos conditionnements et notre confort qui fait qu'on est un peu annihilé. Le fait de se jeter, ça fait que on se dit putain, mais c'est ça que je ressens, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux pas en fait. Putain, tout est beaucoup plus clair. Et donc j'ai vécu ce truc-là et j'en ai fait un album. Donc cet album, c'est la répercussion de ce moment de renaissance et de reprise en main de ma vie en fait, qui était sur des ruines. Et la reconstruction de ça qui passe par plein d'états de foi, de confusion, de doute et tout. Et donc voilà, je suis en train de finir ça et pour que ça sorte, j'espère, en fin 2022 et repartir sur les routes et continuer cette aventure.
Et les photos défilent sur le coin de la table, je la surprends fragile, déverse quelques larmes, elle se souvient de tout. Les parfums, les couleurs, le temps n'a rien dissous. Juste là dans son cœur, elle me dit les détails. L'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.